Valentine Gobie, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes une romancière, vous écrivez pour les adultes, vous écrivez aussi pour la jeunesse. Pour la jeunesse, vous avez écrit « Tu seras mon arbre », c'est sorti en octobre 2018. D'abord, quand vous faites ce livre, c'est pour quel âge ?
Alors, c'est vrai que c'est une question qui n'est pas très simple de savoir comment diriger un texte vers une tranche d'âge. Moi, dans mon enfance, on s'en préoccupait pas du tout, tout ça. Mais aujourd'hui, ça fait partie du marketing des éditeurs. Moi, on m'a demandé d'écrire un texte dans une catégorie un peu nouvelle qui s'appelle, alors je suis obligée de le dire en anglais parce que c'est comme ça qu'on dit, young adult, c'est-à-dire jeunes adultes. Bon, c'est censé être les grands ados et les adultes déjà. Autant vous dire que pour moi, c'est pas très différent que d'écrire pour des adultes. Mes livres adultes, de toute façon, sont lus par des adolescents à partir de 15 ans. Donc, je ne me suis pas tellement posé la question de la jeunesse. Il se trouve que Thierry Magnier est un éditeur jeunesse et que c'est lui qui a accueilli ce texte. Mais il faut dire par ailleurs qu'il développe aussi des collections adultes. Et je crois qu'aujourd'hui, les frontières sont très poreuses. D'autant que le thème de ce livre n'est pas un thème propre ni à la jeunesse, ni au monde adulte.
Votre premier roman, Une note sensible, c'est la musique. Dans ce texte, Tu seras mon arbre, c'est aussi la musique, à mon sens, puisque vous passez de la fable antique à une fable moderne. Alors, la fable antique, elle y est. Hein. Il y a Apollon, il y a Daphné, il y a Diane. Bon, je ne continue pas la liste. Et la fable moderne, c'est une jeune Daphné qui travaille en centre commercial, qui fréquente une boîte de nuit. C'est volontaire, ce glissement, cet écho.
Alors la musique, c'est très important pour moi et je pense que c'est une langue qui est particulièrement extraordinaire parce que elle laisse de côté pour une immense partie tout fossé culturel et social. Alors j'ai tendance à avoir le désir dans tous mes romans de laisser une part à la musique, non seulement pour relier les personnages, mais parce que j'imagine, à raison j'espère, que le lecteur va s'y retrouver dans cette expérience organique en fait du monde qui le relie au monde extérieur, donc par le muscle, par le sang, par la chair. Alors cette jeune fille qui danse dans une boîte de nuit et qui s'expose sensuellement puisqu'elle est légèrement vêtue, évidemment, ça fait le pendant avec Daphné, qui est une nymphe qui vit dans la forêt, qui est aussi très exposée et va attirer donc les regards d'Apollon. Mais il me semblait qu'aujourd'hui, un lieu de séduction, évidemment, ça peut pas être la forêt antique d'Ovide. En revanche, le lieu de la séduction pour les jeunes, c'est souvent l'endroit où justement le corps existe ailleurs que sous le regard de la société ou du monde adulte qui censure, la boîte de nuit ou les soirées dansantes, enfin un endroit où on peut exposer son corps et qui est un endroit de mixité, c'est souvent dans ce lieu-là qu'émerge la sensualité. Et c'est l'histoire, c'est une histoire très sensuelle, c'est aussi une histoire de domination bien sûr, mais ça me semblait ce cadre-là très propice à éveiller toute la partie organique des êtres.
Quand vous dites très sensuel, vous approchez en fait de votre lecteur, de votre lectrice. On sent la laine du garçon sur notre nuque comme Daphné.
Oui, alors pour moi, c'était très important que le lecteur lui-même soit placé en position d'expérience. D'ailleurs, très honnêtement, c'est comme ça que j'écris et que j'ai envie d'écrire en général. C'est que la littérature, ça ne soit pas la réception intellectuelle, cérébrale d'une histoire, mais une expérience elle-même organique. Et donc, de toute façon, ce sont des corps qui sont dans une fonction tout à fait contrastée, puisque Apollon cherche à conquérir Daphné, on est dans une thématique qui est proche de celle du viol, il faut bien le dire quand même, et Daphné le fuit, et le souffle, c'est cet espace minuscule en fait, qui continue à les séparer, et par lequel elle continue à être sauve, et quand il n'y a plus le souffle, c'est que les corps se touchent, et c'est qu'elle est conquise. Donc cette histoire de souffle, elle est absolument centrale, et d'ailleurs, dans la lecture musicale que j'en donne, le souffle a toute sa place.
Il y a aussi un clin d'œil à notre histoire récente, parce que vous défendez en fait toutes ces femmes qui essaient d'échapper aux hommes, des hommes qui les poursuivent proches du viol. Ça n'a rien à voir avec la rencontre amoureuse, hein, c'est autre chose.
Ça peut commencer comme ça, ça peut commencer comme ça, ça peut commencer comme un rapport de séduction.
Oui, mais enfin, vous faites une liste quand même assez dramatique, enfin, qui m'a fait penser à Balance ton porc.
Oui, alors c'est vrai que le lien se fait, et moi ce qui me plaît dans la littérature dite classique, c'est justement la modernité des messages. C'est pas la première fois que je réécris un texte, je l'ai déjà fait par exemple pour Les Misérables de Victor Hugo, dont les personnages me semblent très actuels aussi. Donc évidemment il y a un écho avec l'actualité, mais j'ai envie de dire c'est une actualité qui est atemporelle, parce que depuis l'Antiquité cette histoire existe, ce rapport de domination est absolument terrible. Et souvent quand on nous enseigne la fable d'Ovide en sixième, c'est le moment où on voit la mythologie, on voit l'histoire d'une métamorphose merveilleuse, alors qu'en fait, cette métamorphose est un aveu d'impuissance. Il faut avoir recours à la magie pour échapper à cette violence masculine, ce désir de domination, mais si on va encore plus loin, et c'est ce que je veux dire dans le texte, Apollon, en fait, va jusqu'à se réapproprier l'arbre. C'est son arbre, c'est ce qu'il dit dans le texte d'Ovide, et c'est ce que j'essaye de montrer dans mon texte à moi. C'est-à-dire que la possession ne se termine pas. Même la magie ne peut vaincre, en fait, ce rapport de domination. Donc, en effet, il y a une dimension tragique, et dans le texte d'origine, et dans le mien.
Et tu seras mon arbre. Alors, passons à Un paquebot dans les arbres. Là, c'est un roman de 2016, et c'est un roman où, justement, il y a encore de quoi entendre les oiseaux, l'accordéon.
Oui, alors l'harmonica, c'est surtout l'harmonica en fait, hein, dont on parle dans ce livre-là, parce que ça se passe dans un petit village qui en est fait au milieu de la nature, donc la présence de la nature, de la forêt, qui est souvent pour moi le lieu du réconfort, de l'harmonie, puisque mes personnages traversent bien souvent des épreuves extrêmement rudes, et bien ce lieu de la forêt contient en son centre un village, et dans ce village il y a un café, et ce café est animé par un homme extraordinaire, égoïste, charismatique, magnifique, qui s'appelle Polo, et qui donc tient ce bar, en est l'animateur parce que c'est un musicien de bal formidable, et on est dans les années 50, les instruments de bal, ce sont des instruments d'autodidacte, l'harmonica en est un. Et comme on est encore dans une histoire de souffle, puisqu'il s'agit d'une famille qui va être frappée de plein fouet par la tuberculose, à une époque où d'ailleurs on n'imagine pas assez les ravages qu'elle a continué à commettre, à cause de la sécurité sociale qui est déjà en place et de l'antibiotique, eh bien on suit à travers les évolutions du souffle de cet homme et sa façon dont il joue de l'harmonica, les ravages de la maladie, non seulement dans son corps, mais autour de lui, puisque cet homme qui rassemblait son village dans des fêtes magnifiques va peu à peu être reclus dans une solitude terrible, parce que c'est une maladie qui fait peur, et donc cette harmonica qu'il reliait aux autres ne lui sert plus de rien.
Alors, Polo, ce n'est pas votre héros, c'est une femme, encore une femme. Vous aimez décrire des destins de femmes qui s'en sortent.
Oui, alors, je crois que ce qui m'intéresse, j'ai cru longtemps qu'en fait, c'était l'histoire des femmes, une espèce de revanche, en fait, sur l'existence que toutes les femmes portent en elles, hein, qui me passionnait. C'est ça, mais je crois aussi, puisque là, je viens de terminer un roman dont le personnage est un homme, je crois, en fait, que ce qui m'intéresse profondément, c'est de réfléchir au prix de la liberté. Et que toutes ces femmes dont je parle sont des femmes qui cherchent à se libérer de domination, d'influence, de situations qui semblent inexorables et fatales dans lesquelles on les a placées. Et par leurs ressources intérieures, par leur rapport avec les autres, par leur inventivité, leur intelligence, leur sensibilité, elles franchissent, c'est vrai, des épreuves qui peuvent paraître insurmontables, ça va de la maladie à la déportation, à l'avortement. Et ce sont des personnages lumineux, c'est vrai, parce que ce qui m'intéresse, ce sont ces ressources qu'elles mettent en œuvre. Parfois, elles n'arrivent pas tout à fait, évidemment, à se sortir de ces situations, mais elles essaient. C'est cet endroit-là, en fait, de l'histoire qui m'intéresse. C'est le saut, c'est ce que je dis souvent. Il y a un obstacle à sauter. Eh bien, ce qui m'intéresse, ça n'est pas d'arriver forcément de l'autre côté de l'obstacle, mais c'est la tentative de passer par-dessus.
Dans ce livre « Un paquebot dans les arbres », il y a encore la présence de l'histoire, et là, vous choisissez la guerre d'Algérie. Alors, il ne faut pas croire que elle domine. Non, elle est là comme une note qui vient de temps en temps.
Oui, parce que pour moi, ce qui était intéressant sur le plan historique à ce moment-là, c'était vraiment la naissance de la sécurité sociale et la disparition d'une maladie épouvantable qui fait aussi peur que le sida dans les années 90 à l'époque, et qui était la tuberculose. Mais on ne peut pas mettre de côté, évidemment, des événements qui sont très très importants dans l'histoire de France et qui ont concerné beaucoup de familles, beaucoup de jeunes. Et moi, je suis dans une famille où il y a des jeunes, dans un village où il y a des jeunes, qui est en effet la guerre d'Algérie. Mais ce que je voulais montrer en la laissant en périphérie volontairement, c'est-à-dire en ne la convoquant pas systématiquement à des dates qui nous paraissent absolument évidentes, c'était la distance qu'on peut avoir selon l'endroit où on évolue, selon l'histoire qu'on traverse, avec cette grande mémoire, cette grande histoire qu'on nous impose ensuite comme évidente. Pour des gens qui avaient affronté dans leur intimité des soucis aussi énormes que celui qui arrive à cette famille, avec un isolement complet par rapport au reste de la société, être enfermé dans un sanatorium, les enfants placés, perdre tout ce qu'on a parce qu'on n'est pas à la sécurité sociale, eh bien la guerre d'Algérie paraît en effet un événement secondaire. Sur le plan de l'histoire nationale, c'est fondamental. Sur le plan de la vie intime, ça ne l'est pas. Et donc cette jeune fille Mathilde, qui tient à bout de bras sa famille, va découvrir finalement l'Algérie à un moment où justement son histoire lui paraît étouffante, tellement petite que tellement étouffante parce qu'elle sacrifie toute son existence pour ses parents. Et finalement, l'actualité, on va dire, dans son ensemble, l'histoire du monde apparaît presque comme un échappatoire. Et voilà comment l'Algérie arrive et résonne avec ses propres problématiques, question d'indépendance, de souffrance, de lutte pour l'autonomie. Ça résonne et donc ça fait sens.
Alors, toute dernière question, vous êtes la marraine du centenaire de Maupetit, vous êtes aujourd'hui présente, vous avez vraiment un programme pour Marseille, pour Maupetit ?
Alors ça se construit ensemble, hein. Bien sûr, c'est pas moi qui apporte un programme. D'abord, je suis vraiment très heureuse d'avoir été sollicitée. C'est une librairie magnifique, avec des libraires extrêmement engagés. Et c'est vrai que le programme qui est proposé est très beau. Moi, j'ai la chance de pouvoir y participer. Je vais venir au moins 3 fois, ça je sais. Donc il y a la lecture musicale de « Tu seras mon arbre aujourd'hui ». Je vais revenir le 1er juin pour un autre événement. Et je reviendrai en décembre, où j'espère pouvoir présenter mon prochain roman. Mais on construit les choses évidemment au fur et à mesure, parce qu'il y a aussi plein d'auteurs évidemment qui vont intervenir en dehors de ma présence ici. Mais c'est très touchant évidemment pour moi de pouvoir participer à des événements aussi formidables. Il y a peu de libraires qui ont une longévité pareille, une visibilité pareille. C'est un métier extrêmement difficile et ça donne beaucoup d'espoir évidemment sur la possibilité pour le livre de rester vivant et d'être défendu.
Alors, toute dernière question, de toute façon, pour vous, c'est indispensable de rencontrer vos lecteurs ?
Ah oui, c'est indispensable. D'abord, je vais vous dire, sur le plan pragmatique, aujourd'hui, un écrivain qui n'a pas de jambes, c'est-à-dire qui ne se déplace pas, qui ne va pas à la rencontre de ses lecteurs, que ce soit en bibliothèque, en librairie, dans les écoles, sur les salons, il a assez peu de chances de sortir son épingle du jeu. Il y a beaucoup de concurrence avec d'autres activités, et je crois que la valeur ajoutée de l'auteur aujourd'hui, c'est d'avoir une voix et un corps, vraiment. Donc, c'est très, très important, mais je crois que c'est important pour toute la chaîne du livre dans son ensemble. Un libraire aussi défend mieux un livre quand l'auteur et d'accord pour en parler, pour échanger. Et puis, il se trouve que j'ai le goût de ces rencontres et que c'est pour moi vraiment un plaisir chaque fois renouvelé parce que ça me questionne sur mon travail, ça me permet de comprendre aussi comment sont lus mes livres, de rencontrer d'autres auteurs bien souvent aussi. Et donc, il y a quelque chose de vivant, de humain, qui relève presque de l'idée de fabriquer du vivre ensemble. Et ça, pour moi, c'est vraiment très important, oui.